Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans le Café des Sports, hebdomadaire de Radio Foot International sur RFI, bien entendu, et avec nos invités qui sont déjà là. Rémi Ngono, bonjour.
Bonjour, et il y a Xavier Barré qui est en train de me voler des photos. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il veut toujours être célèbre derrière moi.
Tu n'oublieras pas de me la demander à la fin de l'émission. Hein. Bonjour à tous. Bonjour à tous les auditeurs qui connaissent maintenant tous les secrets de fabrication de Radio Foot.
Et puis alors, on a un revenant dans notre émission du jour, quelqu'un qui nous avait abandonné pendant plusieurs semaines, mais qui s'est dit, tiens, allez, je passe devant le studio, je reviens. Bonjour, Carlos Bianchi,
mais si vous nuestro manquez
goleador.
Le seul Argentin qui s'entend bien avec moi.
Allez, Rémi.
Ah oui, parce qu'il y a un à droite qui est...
qui n'est pas pareil. On a El Goleador d'un côté, et on a El Jefe de l'autre côté. Bonjour, Alejandro Valente.
Bonjour, avec une petite voix aujourd'hui, mais bon, on va essayer
Les virus sont sévères en ce moment du côté de Paris. Nous évoquerons dans ce Café des Sports des rendez-vous sur les pelouses à travers l'Europe durant ces prochaines 48 heures. Et oui, des matchs en jeu, des derbies et même un classico. Un tour d'horizon s'impose de Liverpool à Naples en passant par Londres, Marseille, Madrid et Rome. À vos écrans, vous, durant le week-end, à vos télécommandes aussi, il y a des beaux matchs en perspective. Quelle incidence auront ces matchs à enjeu sur la semaine européenne, sur les matchs retour qui décideront des affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions ? Nous en parlerons. Et puis nous évoquerons aussi la Copa América qui pourrait unir dans un futur plus ou moins proche l'Amérique du Sud, sûre de son talent, et l'Amérique du Nord un peu moins considérée par les Sud-Américains. Enfin, il y aura notre session carton avec nos stagiaires de la semaine, Quentin et Sacha, qui vous présenteront leur carton à eux aussi. Radio Foot, c'est parti.
Palla che poi viene toccata anche da Alessandro e c'è Ebrecan che la spinge in fallo laterale. Il Napoli fa sul serio. Rischi dal limite, potrebbe tirare. Palo, palo, palo. E arriva poi gol, 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 gol. Mertens, Mertens, Dries, 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 Mertens, Dries, 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 Mertens. Juve 0, Napoli 1.
Quoi de mieux qu'un Napolitain pour planter le décor de ce match qui sera le rendez-vous du week-end en Serie A, ce chaud rendez-vous au pied du Vésuve dans l'enceinte du San Paolo, une rencontre entre Naples et la Juventus. Vous l'entendiez tout à l'heure, c'était Dries Mertens qui avait ouvert le score au match aller avant que le score ne se termine par un sévère 3-1. Alors les deux équipes caracolent toujours en tête de la Serie A, mais n'ont aucune chance se disputer la première place, puisque en cette 26e journée, les septuples, nous avons cherché, c'est pas sexup, c'est septuple champion en titre, les Bianconeri, eh bien, ont marqué 13 points de plus que les Napolitains. Eux-mêmes, devant l'Inter Milan, ils la devancent de 9 points. Bref, il y a des trous, des gouffres qui se créent entre les équipes. L'enjeu du match du Calcio de dimanche soir. Carlos Bianchi, est-ce qu'il y a finalement toujours un enjeu, même si on ne se dispute plus, une place au classement?
Depuis longtemps. Je pense qu'en Italie, c'est un petit peu comme en France. Et c'est malheureux. Parce que les championnats italiens, ce n'était pas comme ça.
Mais le début de saison, quand même, on a cru que cette année, la Serie A avec Carlo Ancelotti y arriverait.
On dirait que la Juventus, il a eu du mal à démarrer. Mm-hmm. Mais après, quand il a pris son train-train, et c'était fini. Parce qu'à la fin, c'est comme Paris. Et je dis que pour le football de ces championnats-là, soit de la Ligue, comme les championnats d'Italie, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'ils perdent de la crédibilité.
Il y a une équipe qui domine tout le monde. Et
trop facile.
Et oui.
Ça va être le 8e championnat d'affilée.
Mmh. Ouais, ça, c'est...
Vous savez qu'est-ce que c'est être 8 fois d'affilée champion?
Alors Lyon a été 7 fois
France,
champion.
En France, on ne connaît que Lyon qui l'a été 7 ouais. fois, ce qui est le record, effectivement. Mais c'est...
Oui, mais ils ne gagnaient pas si facilement le championnat Lyon quand même.
Il y en a quelques-uns qu'ils ont emporté haut la main quand même dans les années 2000.
Mais ici, Paris, maintenant, au bout des 19 matchs, c'est fini.
Oui, mais bon, Paris a laissé le titre à Monaco il y a 2 ans. Donc la série a été coupée.
Oui.
Mais là, c'est vrai que la Juventus est sur un 7 titres d'affilée.
Justement, Xavier, comment, où trouver la motivation? C'est pour regarder derrière? C'est pour une histoire d'honneur?
Alors,
aussi
Naples, au San Paolo, il y a toujours ce défi des gens du sud vers ceux du nord, du Mezzogiorno, la région pauvre de l'Italie, vers l'opulent Turin, les usines Fiat. Mais la Juventus n'est pas forcément haïe dans le sud, parce que beaucoup de gens du sud sont allés travailler dans les usines Fiat dans le nord, et donc du coup ils ont quand même un peu d'amitié pour la Juve. En tout cas, ils ont moins de haine ou de ressentiment vis-à-vis de la Juve que vis-à-vis des clubs de Milan. Donc il y a un peu un amour contrarié. Maintenant, c'est vrai que les vrais Napolitains, ils vont toujours pousser le Napoli. Mais aujourd'hui, le titre, il est abonné à la Juventus pratiquement pour la 8e année d'affilée. Et ça va surtout être sur un coup, effectivement, sauver l'honneur pour une affiche. Mais pour le titre, c'est trop tard.
Tout ce que tu dis, c'est vrai. Tu sais que les fois que la Juventus, il a eu son terrain suspendu, ouais. Il était joué à Palermo.
Ouais.
Plus au sud, impossible. C'est là, incroyable. Ils remplissaient les stades.
Oui.
Les stades pleins de Palermo. 50 000 personnes.
Mais oui.
C'est incroyable.
Cette rencontre. Alors, cette rencontre, elle aura peut-être une inconnue. C'est l'absence de Cristiano Ronaldo. Il s'est blessé l'autre jour à la cheville. Enfin, on lui a marché dessus, vraisemblablement. Et il a une entorse. C'est pas plus que ça. C'était très douloureux. C'est pas plus que ça. Est-ce que Cristiano Ronaldo va finalement se risquer dans un match chaud?
Non, il sera laissé au repos parce que, justement, la Juve a déjà pris un sérieux avantage, voulais-je dire. Et puis, il y a quand même la Ligue des Champions qui doit être là, avec un match qui sera très chaud, bouillonnant. Mais par contre...
Mais il est perdu, ce match-là. Il n'y a que Rémy Ngono pour y croire encore.
Ah, c'est ce que...
Ah bon,
vous avez perdu 2-0 à Madrid contre l'Atlético, c'est fini.
Mais ça, si tu...
C'est
si
la provocation, Rémy. Allez-y, énervez-vous.
Si tu es bien en train de le dire, cela veut dire que, justement, quand vous perdez 2-0, vous oubliez naturellement que le Real avec Cristiano Ronaldo avait perdu 2-0 à Wolfsburg. Et puis, finalement, le Real avait même remporté la Ligue des Champions. Donc, Xavier Barret, qui ne connaît pas l'histoire du football de la Ligue des Champions. Donc, mais ça veut dire quoi?
Le parallèle est osé.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Cristiano a été recruté pour ça.
Mais c'est ça, bien sûr. Donc, c'est, rien n'est encore perdu, d'autant plus qu'il est facile. Parce que, justement, quand tu me dis Atlético, cet Atlético a pris une fessée contre, par exemple, une équipe de Dortmund. Donc, on ne peut pas
une
dire...
Une fois, effectivement.
Et
une
alors,
fois.
Mais alors, s'il y a une fois, il peut avoir deux fois.
Oui,
alors, justement, c'est comme
il
ça. Cela veut dire que... Et c'est aujourd'hui, je peux vous dire d'ailleurs qu'en Europe,
mais
actuellement...
On parlait de Naples, tu vois.
Voilà, donc, c'est pas la meilleure défense actuellement. Donc, par rapport à Naples, oui, Naples peut faire beaucoup de choses, mais je ne voudrais pas
Naples
que les gens
gagner.
Voient... Bien sûr, parce que l'équipe de la Juve, contrairement à ce qu'on peut même penser, elle est un peu beaucoup déséquilibrée au milieu de terrain, surtout qu'il y a eu des blessés. Donc, la Juve a beaucoup souffert, et d'ailleurs, c'est ce qui a même provoqué sa chute, que ce soit à Bologne, que ce soit même encore au niveau de Madrid contre Atlético. Donc, pour moi, je ne voudrais cependant pas qu'on dise que la Juve domine absolument et que c'est un championnat faible. C'est un championnat, il y a des très bonnes équipes. On a pu voir comment est-ce que Naples a joué, on a pu voir comment est-ce qu'Inter a joué, mais cependant, c'est comme à peu près
suspense.
Au Bayern, c'est à peu près comme le Bayern a dominé à une certaine période. Mmh. Mais rappelez-vous que la saison dernière, Naples était en train de tenir tête à la Juve, et c'est dans les 7 dernières journées que ça commençait à se décanter. Donc ce n'était pas aussi facile
et
que
Naples,
ça.
Et Naples, au Parc des Princes, il a baladé le Paris Saint-Germain. Hein.
Voilà.
Attention, les championnats. Ils ont fait match nul par hasard, le Paris Saint-Germain.
Voilà.
Mais Naples est une équipe qui joue très bien au football, et c'est pas cette saison ni la saison dernière. Ça fait déjà 4-5 ans que ça joue très bien au ballon, avec Maurizio Sarri avant, avec Ancelotti maintenant. On pensait que l'arrivée de Carlo Ancelotti allait donner plus de consistance à ce Naples qui souvent s'essoufflait,
qui
faisait une très bonne partie
aussi.
De saison et qui avait du mal sur la longueur. Et on s'aperçoit qu'effectivement c'est la même chose.
Ce qui lui manque, c'est de la force offensive.
Exactement.
Les attaquants, ils font pas la différence.
Non plus.
Les deux petits, ils sont bien, ils jouent bien, mais ils sont pas de poids dans les 18 mètres.
Oui, en plus, il y a eu le départ du Slovaque meilleur buteur de l'histoire
Hamzik.
Du club, Marek Hamšík, qui est parti en Chine.
Qui était resté très longtemps en plus.
Milk, Maintenant, Milik. Il a pris la place des ouais, autres, ouais. Un des deux, qui ne joue pas.
Alejandro, peut-être que aussi, finalement, l'absence de Cristiano Ronaldo sur ce match-là ne sera pas si grave. On se souvient que le week-end dernier, il avait été désigné, Cristiano, un peu méchamment, mais comme le pire joueur de la 25e journée de Serie A.
Oui, mais vous faites du mal à ce pauvre Rémi qui non, vient non, de
c'est,
sortir.
C'est la presse italienne qui disait ça, c'est
d'une
pas
semaine
moi.
Terrible, Cristiano qui marche à côté de ses pompes, le Real qui perd face au Barça, Arsenal qui cartonne. Bref, il faut pas
le rapport.
Il faut pas trop taper.
Ça vous rend triste
sur ce pauvre.
Le rapport, c'est vous.
Ah, non, ne vous en faites pas. J'aime beaucoup Arsenal. Hein. La personne qui me faisait vraiment avoir Arsenal comme ma serpillère, c'était Arsène Wenger. Depuis qu'il est parti,
on y viendra tout à l'heure. Arsenal.
Il aime Arsenal depuis qu'il va jouer maintenant contre un club français. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense qu'effectivement, l'absence de Cristiano, la Juve peut fort bien s'en passer. On a vu à d'autres occasions que la Juventus parvenait à faire des bons résultats sans Cristiano. Je pense que Cristiano manque davantage aujourd'hui au Real qu'à la Juventus quand il n'est pas là.
Oui. Surtout, on le sait, il a été recruté en pensant plus à la Ligue des Champions qu'à un énième titre de championnat italien.
Mais il faut quand même rappeler que c'est le meilleur buteur d'Italie.
Ouais,
comme il ne manque pas
mais
beaucoup.
Piontek est assez basque. Hein.
Pour moi, il est en train de faire une bonne saison, Ronaldo. Pour moi, il est en train de faire
une très bonne
saison.
Écoute,
il a pris le courage d'y aller à la Juventus.
Ah, oui, de changer de championnat. Ah,
de changer de championnat, de mentalité.
Voilà.
C'est exactement. Différent jouer en Espagne.
Il y en a certains qui ne sont que dans leur village, dans leur petite maison, dans leur chambre.
Il va pas n'importe
ils
où.
Ils ne peuvent aller nulle part. Mais attendez, le champion ne s'est jamais déplacé. Il naît sur place, il meurt sur place.
Il faut rappeler quand même deux petites choses aux auditeurs des RFI. C'est que si Cristiano Ronaldo s'en va alors qu'il avait déclaré son amour éternel au Real Madrid, c'est parce qu'il a des problèmes avec le fisc et donc il est
il
invité,
avait aussi les problèmes avec le fisc en Angleterre et le problème avec le fisc.
Il part en Italie où visiblement on lui promettait des conditions plus clémentes, disons, plus avantageuses, et puis il va pas n'importe où, il va à la Juventus, il serait allé à l'Inter ou au Milan,
mais
qui
Xavier,
sont des clubs
c'est pas
en
ce que veut dire Rémi, ce que veut dire Rémi c'est
si,
que
si, si,
mais nous
si,
dit mais s'il veut aller à la Juve il ira aussi.
Non mais il nous
pourquoi Messi ne va
il
pas à la Juve
relève un défi extraordinaire. Non, il ne relève pas un défi
pourquoi
extraordinaire.
Pourquoi Messi ne va pas
va
à City
dans une équipe qui est championne depuis
italien.
7 ans. Il va dans une équipe qui est championne depuis 7 ans
un risque,
sans partage. Le risque, il est très limité.
Pourquoi Messi ne va pas à City? Pourquoi Messi ne va pas à Manchester United?
Parce que Messi préfère payer ses amendes fiscales et rester à Barcelone.
Ah mais Cristiano Ronaldo les paye également.
Et beaucoup plus.
Et beaucoup plus. Donc si tu prends maintenant l'argent...
Parce qu'il avait plus triché peut-être.
Il n'y a pas d'argent pour payer Messi.
Mais attendez...
Il n'y a pas d'argent pour payer Messi.
On vous croit.
Ah, City.
Alors, en Italie, il y aura ce match du côté de Naples. Il y a aussi, eh bien, dans la capitale, à Rome, un derby.
Figlioli cari, siete pronti per il santo derby?
Certo, non sa.
Stava a parlare di questo.
Questa sarà una settimana molto particolare.
Campo d'estaccio, c'hai tanta gloria. Nessuna squadra ci passerà. Ogni partita è una vittoria, ogni romano è buon tifoso e sa strillà,
perché Roma ci sa fa.
Roma, Roma, Roma.
Grande Antonello!
Carlos qui a sévi du côté de Rome justement. C'est le Santo Derby entre la Lazio et la Roma. Le sixième qui reçoit le cinquième, les deux équipes séparées par 6 points. Peu importe le nombre de points qui les séparent, là, c'est le
c'est
derby.
La moitié de la ville contre l'autre moitié, disons, même des mentalités différentes. Mais moi, j'ai joué en derby et je me rappelle, comme anecdote, je vais raconter.
Bien sûr.
L'entraîneur Zeman, il était la Lazio, moi j'étais la Roma. Et au bout de 5 minutes, statuto, un joueur, le numéro 8 qui jouait pour la Roma, il fait une semelle, carton jaune. 10 minutes, il met encore une autre semelle, parce qu'il ne pouvait pas les voir, les laziales. Et l'arbitre, il n'a rien dit. Au bout de 15 minutes, je l'ai sorti du terrain. Zeman, il a dit, il a donné l'opinion que j'avais mal fait ce qu'il a fait Bianchi, c'est anti-réglementaire, sortir un joueur au bout de 15 minutes. Et j'allais me trouver à 10 à 15, au bout de 15 minutes. Mais c'est quelque chose de spécial. Je te dis la vérité parce que ce n'est pas un match de la semaine. C'est un match qui les attend des mois. Pour voir qui est le plus fort de la ville. Et je crois qu'en ce moment, la Roma, elle est beaucoup plus forte que la Lazio. Ah oui.
Mmh, ouais. Plus c'est un championnat à part entre les deux, parce qu'ils sont tellement loin de, de pouvoir disputer le titre que c'est presque un championnat privé.
En ce moment, oui, 5e et 6e. Et ça sera samedi soir, justement. Donc il y aura samedi soir ce match-là, dimanche soir, du côté de Naples.
Il y a aussi une petite précision à apporter, c'est que la Lazio est éliminée de l'Europa League. Ils se sont fait sortir par Séville, alors que la Roma va jouer la semaine prochaine. Un match extrêmement important à Porto. Ils ont gagné 2-1 le résultat aller. Donc, il y aura aussi derrière cette perspective très différente, européenne pour la Roma, et pour, alors que la Lazio, elle joue un peu sa saison là-dessus.
Alors, ça, c'était du côté de l'Italie. On va prendre une route un peu plus vers le nord pour atterrir en Première Ligue.
Pray to the football gods about certain things. Like they sit down and the night before and they're like, I pray Tottenham win, I pray Arsenal win.
And the one game I went to, I'm telling you, like you feel it. It's just a different, it's not like your average game. There is something in the air and sometimes you can sort of sense what's going to happen.
Une histoire de feeling dans le nord de l'Angleterre avec, eh bien, ce, dans le nord de l'Angleterre, oui, pardon, avec cette rencontre. En haut de tableau entre alors on a Liverpool et City qui se battent pour le championnat, mais là pour ce qui est du North London Derby, nous aurons dans le nord de Londres et bien ce match entre Tottenham et Arsenal, deux équipes en 4 points qui se sont séparées au classement, les deux autres se sont échappées et s'écharpent pour la première place. Tottenham et Arsenal et bien se battent pour des places européennes, parce que Rémi, on a finalement plusieurs championnats à l'intérieur du même en Angleterre. Et là, il y a deux places européennes pour quatre équipes prétendantes. Tottenham-Arsenal, deux dynamiques différentes. On a Tottenham qui vient de faire, de perdre à Chelsea, qui avait perdu d'autres précédents matchs, alors qu'on a Arsenal qui a atomisé Bournemouth. Des buteurs du côté des Gunners qui sont en forme, Pierre-Emerick Aubameyang, Lacazette, tout le monde marque. Est-ce que pour vous, il y a un favori dans ce North London Derby?
Ah, bien sûr, c'est bel et bien comme on a dit,
Arsenal.
C'est Arsenal, parce que Arsenal.
En allant jouer
beaucoup
à Wembley, oui.
Attendez, Arsenal a beaucoup
métamorphosé. C'est le nouveau Arsenal.
Attendez, parce que Tottenham, honnêtement.
C'est Emery.
Moi, je peux vous dire, Tottenham, les gens ont dit, c'est une somptueuse équipe et c'est des entraîneurs qui, malheureusement, on ne critique jamais. Si c'était Mourinho, ça aurait été très très bien, mais quand vous le gardez. Quand est-ce que Mourinho est licencié? Mais Tottenham fait le pire match.
Il fait
le pire match parce que j'ai vu ça, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui concède 28 tirs, mais gagne 3-0. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à cette époque-là, c'était ce Tottenham-là, en début de saison, tenait beaucoup plus au niveau de la défense et sur
Hugo Lloris. Ils ont des absents importants.
Hugo Lloris qui tenait beaucoup au niveau de buts. Et ça faisait que aujourd'hui, quand on essaie de regarder le jeu de Tottenham, honnêtement, il n'est pas éblouissant, il n'est pas intéressant, ce n'est pas fluide. Or, quand on voit celui d'Arsenal, c'est pour ça que je parle d'un changement de méthode. Parce que d'abord, au niveau d'Arsenal aujourd'hui, Arsenal arrive en fin de saison ayant beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que Emery fait le turnover. Il n'y a pas, comme le faisait Arsène Wenger, des joueurs qui commencent de la première à la dernière journée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les Ramsey qui sont au banc, qui peuvent être mis au banc comme Chaka, tout comme vous avez, par exemple, Ozil même qui est au banc. Alors, Emery fait cela et ça permet à Arsenal d'avoir encore beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de consistance parce qu'il y a de la concurrence et Iwobi qui peut être là.
Comme souvent, la vision de Rémy Ngono est un peu angélique. Hein, voilà, tout d'un coup, là, il se découvre un spécialiste d'Arsenal. Il a oublié une chose essentielle avant ce North London Derby, c'est que Tottenham joue la Ligue des Champions et qu'Arsenal joue l'Europa League. Et qu'effectivement, Unai Emery a pu mettre les remplaçants en Europa League tout l'automne et encore là au printemps, puisqu'ils sont qualifiés sans difficulté, et même s'ils avaient perdu perdu en Biélorussie, mais ils n'ont eu aucun mal au match retour. Et là, ils vont rencontrer Rennes. Alors que Tottenham était dans une poule hyper difficile avec l'Inter de Milan, avec Barcelone, qui sont allés chercher leur qualification au Camp Nou en faisant match nul lors de la dernière journée. Et que là, dans ces huitièmes de finale, oui, en Ligue des Champions, ils sont opposés à Dortmund. Ils ont gagné 3-0 le match aller, mais ils ont marqué les deux derniers buts dans les 10 dernières minutes. Donc, c'est un vrai niveau d'écart qu'il y a entre le défi européen de Tottenham et le défi européen d'Arsenal. À partir de ce moment-là, si on regarde les confrontations directes entre les deux équipes cette saison, et là, peut-être que Rémy Ngono en a oublié une, c'est qu'il y a eu une confrontation en Coupe de la Ligue. Alors, en championnat, Arsenal a gagné 4-2, mais en Coupe de la Ligue, Tottenham a éliminé Arsenal en quart de finale. Donc, on a vraiment la
label.
Et on a une
score.
Belle. Vous avez extrêmement. Mais j'ai rappelé les scores. 4-2 pour Arsenal en championnat, 2-0 pour Tottenham en Coupe de la Ligue. Donc, les deux équipes sont au même niveau. Et effectivement, là, je rejoins Rémy Ngono. C'est un match extrêmement important pour les deux parce qu'il y a la perspective de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine et d'accrocher la troisième ou la quatrième place dans un championnat où il y a aussi Chelsea et Manchester United.
Alejandro Pochettino, l'Argentin, hein, décidément, on parle beaucoup d'Argentin, est un peu héroïque quand même avec un effectif qui n'a pas beaucoup évolué ces dernières saisons. Et puis, quand il a des absences, ça pèse des fois plus que pour une autre équipe.
Oui, et il me rappelle un certain Carlos Bianchi quand il était entraîneur, parce qu'il avait aussi le courage, quand il arrivait dans une équipe, de ne pas sortir les carnets de chèques et faire venir des stars et essayer de porter l'équipe qu'il avait et les joueurs qu'il avait au meilleur d'eux-mêmes. Et c'est un peu ce que faisait Carlos. Il l'a fait à la Roma, il l'a fait dans d'autres équipes. Et c'est ce que fait Pochettino, qui, contrairement à d'autres entraîneurs de Premier League, a
Mourinho,
réussi à pratiquement rester avec les mêmes joueurs, à éviter de bouleverser l'effectif et à éviter des dépenses somptuaires au mercato.
Résultat des courses, 0 titres.
Oui,
il n'a jamais
Manchester
rien gagné.
United,
jamais rien gagné.
Ils sont aussi pas très, très
un
bien.
Hein. Avec un palmarès n'ayant, il faut le préciser.
Non, mais
en toute chose, il faut toujours considérer ce qu'on peut récolter, les fruits. Point. Donc vous me dites qu'il est très bon comme entraîneur, mais il ne gagne jamais rien.
Rémy, c'est pas un mauvais entraîneur.
Ah, comme moi aussi, je n'ai jamais rien
l'autre
gagné.
Jour, ça mais fait pas longtemps, en Argentine, j'écoutais quelqu'un, un journaliste, j'écoutais qui disait, mais Bielsa, c'est qui? Bielsa, il n'a rien gagné. Mais tu peux pas dire que c'est un mauvais entraîneur.
Il a gagné avec Newell's.
Hein?
Il a gagné avec Newell's à l'époque en Argentine.
Oui, mais 30 ans, quand tu gagnes seulement un championnat, c'est les journalistes étaient critiques.
Oui,
comprends? Pochettino, je sais, t'as raison, complètement, il n'a rien gagné. Mais c'est quelqu'un qui tu dois avoir du respect parce que ses équipes, ils savent très bien à quoi ils jouent.
Ah, le problème, c'est que les entraîneurs qui gagnent sont sauvagement critiqués, laminés par Xavier Barré, et les entraîneurs qui ont la queue entre les jambes, qui n'ont jamais rien gagné parce que Xavier Barré, c'est bel et bien comme Arsène Loser.
Xavier Barré, Rémy.
Est-ce pas possible? Vous ne pouvez pas respecter.
Où était Tottenham quand Pochettino a repris les Spurs? Ils étaient où? Dans l'anonymat. Personne ne parlait de ce
Ranieri club. Ranieri a gagné la Première Ligue avec qui? Avec l'Exeter.
Mais
ça, Ranieri, il sortait de Monaco. Qu'est-ce que tu dis là? Un accident. Pourquoi lui ne fait jamais un accident? Mais qu'il fasse un accident.
Pochettino, il a construit un club qui est au niveau européen maintenant. Ils sont. Alors effectivement, il n'a pas recruté comme le rappelait El Jefe l'été dernier. Mais pourquoi? Parce que, mais ça, peut-être Rémy Ngono a oublié, Wenger a connu ça aussi. Quand on construit un stade sur fonds propres, on met beaucoup d'argent dans le stade.
Comme
et c'est ce
Lyon.
Que fait Tottenham.
Ils
construisent un stade extraordinaire. Mais Rémy Ngono, il bâtit des châteaux en Espagne sur du sable. Il ne construit pas sur des fondations. Pochettino, il construit sur des fondations,
Guardiola.
Ça coûte cher.
Guardiola, il a dépensé 150 millions d'euros en arriérel. Tu sais qu'est-ce que c'est 150 millions en trois arriérel?
Arrière,
c'est un pognon fou.
Trois latéraux.
Walker, Mendy.
J'ai juste pris un exemple. Leicester. Pourquoi Leicester gagne? Et pourquoi est-ce que vos grands entraîneurs que vous êtes en train de me faire le chapelet de
pourquoi
misère?
Pourquoi il n'a pas gagné le championnat, Mourinho?
Attendez, Mourinho a déjà gagné au moins ses trois premières ligues. C'est ça le problème.
Non, je parle avec moi.
Mourinho, c'est trois premières ligues.
Carlos, juste un petit mot sur un buteur comme Pierre-Emerick Aubameyang. Qu'est-ce que vous pensez de ce buteur? buteur qui s'était révélé à Saint-Etienne, après à Dortmund, et qui là fait aussi les beaux jours d'Arsenal. Il est troisième meilleur buteur, si je ne me trompe pas, en Angleterre.
C'est un buteur. D'abord, c'est ça. Mais je pense que le football en Allemagne, ça lui convenait beaucoup plus que celui d'Angleterre. Parce qu'en Allemagne, c'était beaucoup plus direct. Mm-hmm. C'était plus vertical. Ici, et ça joue beaucoup plus, ça construit beaucoup plus. Et des fois, lui, il ne trouvait pas les espaces.
Ouais.
Parce que lui, c'était quelqu'un de très, très rapide, qui pouvait jouer au contre-attaque, et c'est un joueur idéal. Mais quand même, il a trouvé sa façon, il a compris ses partenaires, et il est toujours au point nommé. Mm-hmm. Il est toujours dans les 18 mètres. C'est la chose la plus importante qu'il doit avoir en avant-centre.
Oui, oui. En tout cas, c'est un des buteurs de ce championnat d'Angleterre. Alors, dans le nord de l'Angleterre, il y aura un match, il y aura un autre feeling, et cette fois-ci, ce sera pour un derby qui va mettre la ville de Liverpool en ébullition.
You can hear, see and smell it everywhere you go. In a town where everyone talks football non-stop, where everyone has a wicked sense of humour, and where people live and work with supporters of the other side, the derby really, really matters. If you lose, you know your life is going to be hell until the next game.
Les Reds et les Toffees qui ont rendez-vous donc sur la pelouse d'Everton, mais si l'on s'en tient au classement, alors là, Xavier Barré, c'est un gouffre qui sépare ces deux équipes. Il y a 33 points entre les Reds et les Toffees, 33 points entre le premier et le neuvième du championnat d'Angleterre. C'est
oui,
énorme.
Oui, c'est énorme. On sait qu'il y a le Big Six et puis il y a derrière, il y a un peloton de poursuivants dans lequel est Everton, mais qui n'est pas le meilleur. Ils l'ont été par le passé. Ils ne sont pas actuellement. Il y a West Ham, il y a Leicester, il y a des clubs comme ça qui sont derrière à la course pour essayer de grappiller éventuellement une septième place qualificative pour la Coupe d'Europe. La saison dernière, c'est Burnley qui l'a eu. Bon, Everton est théoriquement celui qui apparaît le mieux armé pour l'obtenir, mais c'est vrai qu'ils ont quelques ratés. Mais je pense que l'enjeu n'est pas là pour les Toffees lors de ce derby. L'enjeu, c'est clairement de gagner à nouveau contre Liverpool et gagner chez eux devant leur public. Et c'est ça qui va valoir...
De leur empêcher d'être champion.
Oui, ça c'est. Il y a encore pas mal de journées d'ici là, donc. Mais c'est 26e non, mais c'est surtout.
Journée, il en reste encore 12.
Voilà, mais il y a surtout cette volonté de renouer avec la victoire devant leur public. Je crois que la saison dernière, ils perdent 1-0 à la dernière minute. Donc il y a vraiment cette volonté de redonner de la fierté aux supporters des Toffees.
Voilà pour ce qui est prévu dans le championnat d'Angleterre. En tout cas, les matchs que l'on a repérés et sélectionnés. Et puis alors, on va partir du côté du sud de l'Europe, en passant par l'Espagne, Rémi.
Goes between Ronaldo and David Beckham. And
there is Henry. Can he bounce back for Barca? Oh, yes, he can. Ramos gives Real Madrid a lifeline.
Let's let them go. Benzema qui peut glisser ce ballon à Özil et but.
And Piqué. Wonderful goal from Karim Benzema.
Minuto dos de partido. Minuto dos de partido. Raúl González.
Ronaldinho at his very best.
Marca Roberto Carlos.
Unstoppable.
Ojo Ronaldo. El balón de nuevo para Zidane, ahí está Zidane, quiere colgar el cuero.
¡Magic!
Les grands noms de tous ces joueurs qui sont passés par ces classicos. Christian Carambeu disait c'est un vrai honneur de disputer ce genre de match. Lui, l'ancien galactique. Alors le Real Madrid, disputera face au FC Barcelone le 242e classico espagnol. On s'en souvient, mercredi, le Real a été sévèrement battu sur sa pelouse par le Barça 3-0. Il jouera de nouveau sur la même pelouse, face au même adversaire, mais cette fois-ci pour le compte de la Liga. En ce qui concerne la Coupe du Roi, le Real est éliminé. L'enjeu peut-il changer la donne? Pour Santiago Solari, l'entraîneur des Merengues, il veut nous convaincre que ce match est autre chose.
On va très bien. Bien sûr, mercredi dernier, nous avons mis tous nos efforts dans cette rencontre. Nous voulions accéder à cette finale. On a tout donné dans cette compétition générale et pour ce dernier match en particulier. Mais c'est ainsi, nous sommes à nouveau debout, nous nous concentrons sur le match de demain en Liga, et c'est une compétition différente. C'est à nouveau un classico, et nous sommes concentrés et nous avons hâte de le disputer.
Alors Rémi, nos auditeurs veulent vous entendre sur le Classico. Il y en a même qui pensaient qu'après cette raclée, vous ne viendriez pas pour nous parler du Real Madrid. C'est ce qu'ils écrivaient sur la page Facebook. Comment on se relève d'un 3 à 0 sur la même pelouse 72 heures après ?
Qu'est-ce qu'il va trouver comme excuse ? Qu'est-ce qu'il va trouver comme excuse ?
Ah Rémi !
Première des choses...
Qu'est-ce qu'il dit, Xavier ?
Première des choses, l'excuse, c'est que... Lorsque le Real gagnait le Barça en Ligue des Champions et d'autres équipes, voulais-je dire, en Ligue des Champions, on disait c'est un Real qui ne fait pas un beau jeu. C'est le Barça qui fait le beau jeu. Et Alessandro Valente et Xavier Barré tentaient de faire croire au monde entier que le jeu du Barça était le meilleur du monde. Aujourd'hui, c'est donc effectivement le Real Madrid qui a pris ce jeu-là, c'est-à-dire que faire un très beau jeu pour ne pas conclure. Parce que quand on voit quand même le Barça dans ce match-là, c'est deux tirs cadrés en dehors du pénalty. C'est deux tirs et ça fait deux buts. Or, combien d'actions ? J'ai dit bien, ça fait trois buts. Vous avez dit deux buts plus le pénalty, c'est ça qui fait trois. Donc, il y a eu deux tirs cadrés. Bon. Maintenant, quand on essaie de regarder au niveau du match, vous avez en première mi-temps, vous avez totalement 8 occasions pour tuer le match. Vous ne le tuez pas. Et d'ailleurs, Busquets a reconnu que...
Mais ce n'est pas la faute à Barcelone, ça.
Ah oui, pour vous dire...
C'est pas la faute de Barcelone.
Pour vous dire donc que...
Quand tu frappes devant le gardien à 7 mètres, tu le frappes sur le gardien, Benzema, c'est pas la faute à Barcelone. C'est Benzema qui se trompe.
Ah oui, c'est...
À 5 mètres.
Mais c'est ce que je voulais...
Il a frappé à 5 mètres.
C'est ce que je voulais donc dire, que ce Real d'aujourd'hui a manqué de ce qu'on peut appeler l'efficacité. Et c'est ça qui a beaucoup fait mal au Real Madrid. Mais
alors,
par contre...
Demain soir, Rémi.
Demain soir, malheureusement, je devrais dire que je...
Vous n'allez pas regarder le match.
Je vais regarder le match, mais à force de regarder, je vais quand même essayer d'être un peu objectif. Vous vous rendez compte quand même que avant 2009... Le Barça n'avait que 20 victoires sur 102 rencontres au niveau du Bernabéu. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte quand même que depuis totalement 2009, on se retrouve avec, sur 10 matchs, on se retrouve avec 7 victoires du Barça. Donc, à force de battre le Real à domicile, le Real part déjà même avec cette mentalité de vaincu. Et comme le dit un proverbe africain, quand on a déjà été mordu par le serpent, on craint même un ver de terre.
Alors,
pas mal celui-là, il est pas mal.
Il est très mal.
Je pense qu'il va plaire, à nos supporters du Barça, ça c'est certain.
Rémi, une statistique intéressante, il y a donc eu déjà 241 classicos disputés et David Finzel nous a trouvé cette stat, 95 victoires pour chacune des deux équipes. Alors qu'il y a eu 51 matchs
nuls.
Ça veut
96,
dire que là,
96.
Ça va peut-être basculer.
Ça
peut-être
va
pas.
Basculer, mais pour l'instant, le Real domine au niveau de l'avantage des buts. C'est-à-dire que le Real a marqué 403 buts, le Barça a marqué 398 buts. Donc pour l'instant, le Real est encore devant. Mais quand on essaie de voir la façon que le Barça revient, même quand il n'est pas présent, c'est-à-dire qu'un Messi avec un pied claudiquant, on voit totalement une équipe du Barça qui est perdue
et qui gagne 3-0.
Et qui gagne 3-0, mais je vous jure que j'ai lancé un coup de pied sur mon téléviseur. Je me suis dit, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible.
Carlos, comment on revient sur la même pelouse pour disputer le même match pratiquement face aux mêmes adversaires et qu'on veut gagner?
Non, tu sais quoi, si je serais à la place de Real Madrid, je serais tranquille dans le sens qu'ils ont fait une très bonne première mi-temps.
Mm-hmm. La seule chose que. Le problème, c'est qu'il y avait une deuxième mi-temps.
Oui, non, le problème, c'était qu'ils ne sont pas cadrés. C'est là le problème.
Bien sûr.
Mais ils ont bien joué la première mi-temps, vraiment. Et Barcelone, ils ne jouent pas bien en ce moment. Hein. Attention, pour moi, ça ne me plaît pas tellement comme ils jouent Barcelone. Ils ont du mal. Suarez, il revient un petit peu. Mais il a passé un mauvais moment. Bon, alors je pense que Real Madrid, il a droit à jouer sa chance d'égal-égal contre la Barcelone, malgré le résultat de mercredi dernier.
Alejandro.
Mais en tout cas, la machine de communication du Real Madrid s'est déjà mise en marche pour essayer de nous convaincre que les matchs qui comptent, c'est mardi contre l'Ajax. Et que le match de demain, bon, c'est relativement moins important pour le Real, tout en sachant que si le Real venait à perdre, ce serait la première fois qu'il perdrait face à un même adversaire 4 matchs d'affilée au Bernabéu.
C'est je ne crois pas que le Real Madrid va laisser partir le match comme ça. Bah, il va le jouer. Il va le jouer, je pense.
Ils ont trois défaites d'affilée au Bernabéu. Au Bernabéu, face à Barça.
Je te dis, il va le jouer.
Ils ont joué mercredi, mais ils ont perdu.
Il y a des champions du monde, et allemands, en italien, en espagnol, je ne sais pas quoi. Il y a des champions du monde, ils ne vont pas rentrer au Bernabéu pour le laisser partir.
Mais ils préparent les supporters à une nouvelle déception en disant voilà, le match qui nous importe, c'est mardi contre l'Ajax.
Contre l'Ajax, ils sont qualifiés.
Cette fois-ci, le plan est déjà fait pour le Real Madrid. Le Real Madrid a déjà mis le plan en jeu, c'est simple, c'est-à-dire que vous donnez la balle à Vinicius, il envoie piquer.
Mercredi, oui.
Voilà, il envoie piquer maintenant, parce qu'on a compris que maintenant avec Vinicius, Piqué ira certainement finir dans des tribunes, Semedo dans des tribunes, donc voilà de la
même manière. Donner la balle à Vinicius, c'est limité comme tactique quand même.
C'est réduit. Allez, je voudrais juste préciser une petite chose, c'est qu'on dit, y compris Carlos Bianchi, on dit que le jeu du Barça est pas bon. On est devenu très exigeant parce qu'on a eu du caviar pendant des années et des années. C'est vrai que des fois ils sont décevants, on attend mieux. Mais moi, le match qu'ils ont fait à Lyon en Ligue des Champions, c'était quand même du très haut niveau. Et ils ont pas marqué, mais ils ont fait un très grand match. Donc, effectivement, ils marquent pas 5-0 à chaque match, mais là encore, ils ont gagné 3-0 à Barcelone, peut-être en jouant de façon moins flamboyante. Donc, parfois, ils ont l'efficacité. Parfois, ils ont la flamboyance, mais sans l'efficacité, comme ça a été le cas à Lyon. Ben, quand ils auront les deux, je pense qu'ils seront en finale de la Ligue des Champions.
Un
petit crochet par le championnat de France. Ça sera dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome. Les Marseillais vont-ils l'emporter ? Ça sera évidemment le match qui refermera la journée de championnat de France. Et nous aurons face à face l'OM et Saint-Etienne. Deux équipes qui se suivent là encore au classement et qui se battent pour une place européenne. Et on aura aussi deux buteurs face à face. Le Marseillais Balotelli et puis Wahbi Khazri, l'international tunisien. Le Marseillais Balotelli qui a inscrit 3 buts en 5 matchs. Alors Wahbi Khazri en a déjà marqué 12, mais évidemment en 23 matchs. Xavier, y a-t-il selon vous un favori dans cette lutte pour finalement essayer d'attraper le podium ?
L'OM quand même. L'OM quand même, parce qu'ils ont, ils ont un budget, ils ont des joueurs plus expérimentés, enfin plus cotés, ils ont une ambition plus importante. Et l'OM avec la pression...
Mais ils reviennent de loin.
Oui, ils reviennent de loin, mais je trouve qu'en plus l'OM est sur une dynamique intéressante. Pourtant, c'est pas un club pour lequel je suis inconditionnel, hein, mais il faut reconnaître que là, ils ont enchaîné des résultats qui ont complètement renversé la tendance. Le public est à nouveau derrière eux. L'arrivée de Balotelli a été extrêmement bien organisée. Donc, tout de suite, il s'est plutôt bien fondu dans le moule. Hein, on voit qu'il a tout de suite été bien accueilli par ses coéquipiers. Il a marqué très vite. Donc, il y a une dynamique plutôt intéressante. Saint-Etienne, c'est bien, mais Saint-Etienne, on sait que la qualité des joueurs, même s'il y a du talent, elle est un peu en dessous. Donc, normalement, l'OM est devant.
Alejandro.
Et j'ajouterais que la défense est beaucoup plus solide côté marseillais, qui a beaucoup de joueurs blessés qui reviennent. Et donc, il y a beaucoup plus de solutions pour Garcia, qui n'a pas finalement été lâché par ses joueurs. Donc tout ça, ça fait un cocktail d'arguments qui peuvent encourager l'OM à gagner ce match, à devenir quatrième devant Saint-Etienne justement, et à se positionner pour une éventuelle défaillance lyonnaise dans les semaines qui viennent.
Pour essayer de décrocher une place de Ligue des Champions. Rémi, avantage Marseille ?
Ah oui, mais quelque chose, malheur est bon. Il dit qu'il y a des joueurs blessés qui reviennent, mais justement, il ne faut pas qu'ils reviennent. Il faut qu'ils restent à l'infirmerie. Parce que c'est il faut bien que Rolando et par exemple, qu'il a Rami, qui ne soit plus jamais à l'axe central, ça c'est clair. Mais vous vous rendez compte que c'est avec cette défense que le
là,
Marseille
on a deux
avait
jeunes,
quand même
Camara et Tchelataka.
Oui, justement, parce que vous savez, Marseille, la grosse faiblesse de Marseille, c'était sur le plan défensif, c'est l'équipe européenne qui a encaissé 80 buts en une année civile, c'était là, en 2018. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec deux jeunes, c'est-à-dire que Camara qui est beaucoup trop rapide même, avec ses 19 ans, et puis on a Tchelataka qui le sent bien, il y a une sorte de complémentarité entre les deux. Donc pour moi,
ça
et d'ailleurs ils ont
venir.
Fait, ils ont fait 5 matchs d'affilée sans défaite. Donc quand on essaie de voir ça, j'ai dit c'est très très bien, mais si on revient avec Kanto, Rolando encore, Ami, non, c'est pas bon. De toute façon, il y a un proverbe africain qui dit que c'est quand on a le furoncle derrière qu'on reconnaît l'importance de la fesse. Donc mieux aujourd'hui qu'on ne revienne pas avec ce furoncle.
Celui-là, il est moins brillant.
Destination Amérique du Sud. Les Sud-Américains, jaloux de leur compétition et qui ne veulent surtout pas partager avec le Grand Sam, la Comebol a répondu non à la CONCACAF et non à la proposition de l'US Soccer, donc la Fédération Américaine de Football, d'organiser l'an prochain une Copa América à 16 équipes en territoire nord-américain, un peu comme ça avait eu lieu pour la fameuse Copa América du centenaire, du Centenario en 2016. Alejandro Valente, est-ce que c'est un non définitif? Est-ce que ce sont deux fédérations, deux confédérations qui ne s'aiment pas? On entend la Comebol qui dit oui, non, mais nous les 10 pays sud-américains, nous qui un peu avons inventé le football dans les Amériques.
Oui, il y a un peu de ça. Disons que d'un côté, il y a l'Amérique du Sud qui a mal vécu certaines attitudes de la Confédération nord-américaine, notamment lorsqu'ils ont décidé de ne plus participer avec des équipes mexicaines ou américaines à la Coupe Libertadores, ou lorsqu'ils ont refusé certaines invitations pour disputer la Copa América. Donc là, c'est la Confédération de la CONCACAF qui a invité les équipes sud-américaines l'année prochaine à disputer un tournoi aux États-Unis. Ils promettaient,
encore aux États-Unis, oui.
Ils promettaient beaucoup d'argent. Du coup, là, les Sud-Américains ont dit qu'il n'en était pas question. Mais ça n'empêche que l'idée fait petit à petit son chemin à l'avenir d'essayer de regrouper en une seule compétition des nations l'ensemble de l'Amérique
du comme Sud, l'euro.
Amérique centrale
comme l'euro en
et Amérique du Nord. Et pour cela, il y a deux arguments. D'un côté, la Gold Cup, qui est la Coupe des Nations de la CONCACAF qui a
du
mal à exister, qui va peut-être disparaître
bientôt. Qui se joue toujours entre les États-Unis et le Mexique,
voilà.
Pratiquement.
Le seul intérêt que cette compétition avait était de désigner le représentant de la région pour la Coupe des Confédérations de la FIFA. Or, cette Coupe des Confédérations va disparaître. Donc, du coup, ça perd beaucoup de sa motivation. Donc, l'idée de regrouper les deux confédérations pour faire une seule compétition, gagne du terrain. Ça va prendre du temps, mais ça peut éventuellement se produire.
Carlos Bianchi, il y a une grosse différence de niveau entre ces deux zones des Amériques pour ce qui est du football mondial ou de clubs.
Je ne sais pas, le championnat des États-Unis, je crois qu'il a
il commence ce week-end, hein, la MLS.
Et les Mexicains ne sont pas faciles. Hein. Moi, j'ai joué plusieurs fois un champion contre eux et ce n'est pas facile. En plus, il y a un long voyage à faire. Ouais. Ce n'est pas comme ici que tu vas de Rome à Madrid, de Madrid à Londres, de Londres à Munich.
Ouais, les distances
heures.
Sont énormes.
Alors, les distances sont très grandes. Mais je pense qu'ils ont fait des progrès. Et en plus, ils s'achètent les meilleurs joueurs argentins en ce moment. Même les entraîneurs argentins, ils vont travailler aux
même
États-Unis.
Ah oui, parce que nous, on a un Français, Gignac, qui se trouve au Mexique et qui marche très, très bien.
Il n'a pas voulu revenir. Hein. Il est très content d'être là-bas à Monterrey. Ouais. Et moi, je pense que... Mais la question, c'est que les deux, trois dernières années, ils ont joué une Coupe américaine.
Ils ont joué en 2016. En 2016, ouais. Ils sont pour les centenaires de la Coupe américaine.
C'est pas sérieux. Même la Comebol, il n'a pas arrivé à faire jouer la finale de la Coupe des Champions en Amérique. Mm-hmm. Ils sont allés jouer au Madrid. C'est pas sérieux, ça. Alors, je pense que je ne sais pas si vous arrivez un jour à se mettre d'accord.
Oui, à faire un football américain.
Ce serait logique, parce qu'on peut rappeler rapidement, juste qu'au niveau géographique, vous avez des pays du nord de l'Amérique du Sud, comme le Suriname par exemple, qui jouent avec les Caraïbes. Donc, déjà, géographiquement, c'est, le découpage est bizarre.
Vous savez, il faudrait voir aussi. Après, il faut faire la Champion.
Oui.
Mais la Champion, si tu dois aller jouer à Seattle, aux États-Unis, tu mets 3 jours de Buenos Aires.
Oui, non, mais après on peut faire en étapes. On peut faire déjà une Copa América sur tout le continent, comme il y a eu la Copa América du Centenario en 2016.
Oui. Et après, voir les coupes de clubs.
Et puis après, on verra pour les clubs.
Allez, nous passons à notre session carton de la semaine.
Carton jaune.
Il y a un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Les cartons de la semaine, et honneur eh bien à nos stagiaires qui sont là, qui étaient là, qui ont passé du temps à la rédaction ici des sports. Et on commence par Sacha Brook. Bonjour Sacha.
Bonjour.
Alors Sacha, quel carton vous mettez sur cette semaine de football et de quelle couleur ?
Personnellement, je donne un carton vert à Clément Grenier. En effet, mercredi dernier, il y avait un match qui opposait le Stade Rennais à l'US Orléans. C'était un quart de finale de la Coupe de France. Et ce match a été marqué par un acte de fair play remarquable de la part du milieu offensif français. En effet, il a, à la 40e minute de jeu, refusé un pénalty qui lui avait été accordé à la suite d'une faute inexistante, en expliquant à l'arbitre qu'il avait été emporté dans son élan et que le défenseur orléanais n'avait en aucun cas fait faute. Malgré cela, les Rennais ont quand même remporté la rencontre et cet acte de fair play a été lourdement souligné par les dirigeants du club de Ligue 2.
Bon.
Qui ont...
Très bien. Donc bravo à Clément Grenier
et
à son geste sportif. Hein, n'est-ce pas ? Ça sert les stagiaires.
Ça n'arrive pas à Buenos Aires, ça.
Ça arrive rarement. Il faut qu'on soit dans un match de Coupe de France.
Les bonnes nouvelles, parce que c'est un acte vraiment.
Hein, ouais. C'est intéressant. Alors, autre stagiaire, Quentin Berthier. Bonjour, Quentin.
Bonjour.
Alors, vous, votre carton, quelle couleur et à qui ?
Un carton vert, moi aussi. Aussi, lors d'une quart de finale. De la Coupe de France, je le donne à Di Maria lors de PSG Dijon.
On est très argentin aujourd'hui, Carlos.
pendant ce match, je trouve qu'il a merveilleusement remplacé Neymar avec sa technique et son contrôle du ballon. Lors du premier but, où il lobe le gardien merveilleusement et il réceptionne la passe de Draxler très bien aussi, à la 8e minute. Et il remplace aussi très bien Cavani. Ces deux joueurs-là blessés, avec son réalisme et lorsqu'il suit l'action vers la 28e minute, 27e plutôt.
Il a marqué.
Il a fait une passe à Choupo-Moting et Choupo-Moting a tiré à rater. Du coup, il a suivi le ballon et il a marqué.
Donc, carton aussi pour un joueur et carton vert. Ils sont positifs, nos stagiaires. Merci beaucoup, Quentin, et merci pour cette semaine où vous étiez avec nous. Carlos Bianchi.
Carton rouge.
Carton rouge. Ah, on passe du vert au rouge.
Rojo.
Pour qui ?
Au voleur des joueurs de football.
Oui, vous avez lu le dossier dans le journal de l'équipe.
À tous ceux qui sont allés cambrioler les joueurs de football quand ils sont en train de jouer au foot.
Ouais.
C'est pas normal, ça. Ils sont malins. Hein. dis-moi une référence là. Comment on dit en Afrique ?
Il y en a de plus en plus, oui.
Xavier, rapidement.
Moi, je vais mettre un carton vert. Il y avait un match féminin hier soir, mais c'est pas de celui-là dont je vais parler. C'est parce qu'il y a une opération en France, en Ligue 1, et menée par un des sponsors du football français, qui va permettre aux équipes de Lyon, de Monaco, de l'OM et de Nantes, au mois de mars, chaque but qu'ils marqueront, eh bien, rapportera de l'argent pour le développement du football féminin. Et je trouve que c'est une très bonne initiative et j'espère bien sûr que Nantes va marquer beaucoup de buts en ce mois de mars.
Il faut espérer. Alejandro.
Allez, un carton vert à Alvaro Morata, l'attaquant espagnol de l'Atlético Madrid qui a marqué le week-end dernier face à Villarreal et qui a un peu effacé les deux injustices dont il avait été la victime parce qu'il avait aussi marqué contre le Real Madrid un but. Il avait marqué aussi contre la Juventus, mais à chaque fois, ses buts avaient été annulés par la VAR, et je pense que c'était bien dommage.
Rémi, un petit carton, rapidement.
Carton rouge au dirigeant du Real Madrid qui licencie justement l'entraîneur de la Castilla juste parce qu'il a critiqué les vétérans du Real qui n'ont pas pu défendre leur couleur.
Et c'est la fin de ce Radio Foot International. C'était un peu rapide, Rémi. Excusez-nous. Merci à tous pour cette semaine passée en votre compagnie. Merci à Laurent Salerno à la réalisation, à Pierre Guérin et David Finzel.